Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore ce matin pour vous servir. Comment démanteler les réseaux mafieux dans les secteurs de l'éducation? On en parle aujourd'hui avec Serge Bondedi, secrétaire général de l'ONG IMAE, Young Men Action for Education, et coordonnateur de la campagne École ESA Mombongote. Serge Bondedi, bonjour.
Bonjour, Papa Woody.
Bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien. Nous allons également recevoir tout à l'heure Ernest Mparero, président de la Ligue Congolaise de lutte contre la corruption. Le sujet vous intéresse, vous voulez participer, composez le 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiocapu.net. Comment assurer une bonne prise en charge des cas de traumatisme en République démocratique du Congo? Ce sera le deuxième sujet de cette émission. À partir de 11h05, heure de Kinshasa, Tati Mapoukou coordonne et réalise cette émission. Alain Goy à la mise en onde. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama. Louange participe aussi à la production de cette émission. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Capi Service. Nous allons parler à présent des réseaux mafieux dans les secteurs de l'éducation. Eh bien, il s'est développé dans ces secteurs un vaste réseau mafieux que IMAE qualifie d'oligarque. Voilà, c'est le réseau des oligarques. Au fil des années, ces personnes ont mis en place des mécanismes de détournement des fonds et matériel et autres sans être inquiété par qui que ce soit. Derrière les différents projets dans les secteurs de l'éducation, ces mafieux savent tirer leurs dividendes au détriment des élèves congolais. Alors que faire pour démanteler ces réseaux puissants des malfaiteurs en col blanc? Eh bien, on en parle avec Serge Bondedi de l'ONG Young Men Action for Education et coordonnateur de la campagne École ESA Mombongote. Serge Bondedi, encore une fois, bonjour et bonne année.
Bonjour, bonne année, Papa Jody. Très fier de retrouver de nouveau de milliers auditeurs de la radio Okapi et de l'émission, notre émission que nous aimons tous, Okapi Service.
Bien. Alors, depuis un moment, vous dénoncez l'existence des réseaux mafieux que vous qualifiez des oligarques. Alors, parlez-nous un peu de cela. De quoi s'agit-il?
Ok, merci beaucoup. Et ça tombe à point nommé pour nous, d'abord de dire devant le monde entier qui nous écoute que j'ai fait l'objet au cours de mois de décembre de deux menaces. Avec des hommes en armes, en tenue civile. Le premier, c'était au niveau de la station Macampagne à Kinshasa. Je crois que les habitants de Kinshasa connaissent très bien le milieu. Profitant de l'embouteillage, deux messieurs descendant bord d'une jeep m'ont dit, si je continuais à ce que nous faisions, ils vont s'apprendre à moi. Le même message m'a été aussi fait, je crois que c'était dans la nuit du 23 décembre, entre 22h et 23h sur le boulevard du 30 juin à la hauteur du pont Chanik et puis d'autres menaces. Mais au stade actuel, la situation s'est calmée parce que nous avons fait l'objet d'une prise en charge des autorités gouvernementales, de partenaires et surtout les médias aussi qui nous ont appuyés. Deuxième élément que je voulais faire une mise au point, et que dans le travail que nous avons fait, que nous continuons à faire, ce que nous avons qualifié d'oligarque, aucunement IMAE vise les individus à titre personnel. C'est un travail que nous faisons dans le cadre de notre travail, dans le cadre de notre mission, de la défense du droit à l'éducation, parce que pour nous, l'éducation est un droit indispensable. C'est le seul droit parmi le droit de l'homme qui est fondé sur le postulat d'un esprit éclairé et actif, capable de vagabonder librement, et une des joies et des compétences de l'existence. Donc, nous faisons un travail pour vraiment faire valoir, faire promouvoir le droit à l'éducation. Alors, fort de notre expérience à travers la campagne Kela Sésame Mbongote, je crois qu'aujourd'hui, toutes les autorités s'en ont rendu compte que derrière l'éducation, il y a effectivement des citoyens, des compatriotes, peut-être pour des besoins d'enrichissement, peut-être à cause de la pauvreté, peut-être à cause de l'ignorance, quelles que soient les raisons ou le fondement, mais de fait démontre qu'il y a de ces compatriotes qui usent de l'éducation pour s'enrichir, et à plusieurs niveaux. Et ces personnes...
Et pourquoi vous les qualifiez d'oligarques?
Si nous qualifions de l'oligarque, vous savez, Humaye a toujours une rhétorique, comme société civile, c'est-à-dire que nous utilisons souvent des rhétoriques, de figures de style qui interpellent les décideurs, qui interpellent les communautés, c'est ainsi que vous voyez, dans la plupart de nos actions, lorsque nous parlons, à titre d'exemple, du concept « filles d'aujourd'hui, femmes de demain », tout en avouant que ce n'est pas un concept créé par Humaye, mais à travers ces concepts que nous avons relayé, parce que c'est créé par beaucoup de structures avant nous, mais à travers ces concepts, nous interpellons la jeune fille qui sera responsable demain. Vous avez la campagne École et Zamou Mbongote. On interpelle tous les opérateurs de se dire, ah bon, ah oui, on nous interpelle que l'école est un bien communautaire, nous ne pouvons pas en faire un service marchand. Lorsque nous avons parlé de l'oligarchie, c'est une rhétorique pour apostropher les décideurs, pour apostropher tous ceux qui interviennent dans la gouvernance ou dans la mise en œuvre des projets éducatifs, de se dire, ah oui, attention, nous avons ériger un certain nombre de comportements qui donnent l'impression aux gens que nous travaillons en club, que nous travaillons en association, tout en s'éloignant de plus en plus des objectifs ou des attentes des communautés.
Oui, voilà. Serge Bondé dit, comment est-ce que ces mafieux opèrent dans les secteurs de l'éducation? Quel est leur mode opératoire?
Alors, vous avez à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, par exemple, je peux vous dire que au niveau des provinces, nous prenons le cas de la ville de Kinshasa, où il y a quelques temps, nous avons fait des émissions sur le frais de constitution des bibliothèques. Oui. C'est-à-dire que au niveau gouvernemental, on édicte des normes que les ménages puissent contribuer à financer tant soit peu la constitution des bibliothèques parce que l'État est déficitaire, mais ne sait pas être au rendez-vous à ses obligations. Il implique les parents dans les financements, mais curieusement, vous avez au niveau des écoles ou des chefs d'établissement qui prennent cet argent payé difficilement par les parents et en font leur bien propre. C'est-à-dire qu'au retour, il n'y a pas de livres qui sont achetés, il n'y a pas de bibliothèques qui sont constituées. Nous avons haussé la voix parce que cela apparaissait pour nous de la mafia, et lorsque ce comportement était presque généralisé dans beaucoup d'écoles, et nous, sans que les gens s'en rendent compte, se mettent debout pour frapper, et là nous avons dit, c'est que c'est entretenu, c'est à ce moment-là que nous qualifions de cela de l'oligarchie. Et lorsque nous avons haussé la voix, vous avez vu qu'à Kinshasa, il y a des efforts qui sont fournis pour l'année passée. On a mis des missions dans lesquelles la société civile s'est fait représenter et on achète des livres. Bientôt là, on va distribuer des livres. Donc nous avons cassé l'hémorragie de la mafia.
Oui, et vous avez dénoncé dernièrement à Isiro, à l'État Isiro, où il y a un projet PEC-PESU qui va d'ailleurs fermer, mais les matériels stockés dans les on a stocké les matériels dans les conteneurs depuis bientôt 2 ans sans les utiliser.
Voilà. Donc j'étais en train de donner un exemple au niveau provincial et nous venons au niveau national à ce qui concerne l'enseignement technique. Vous savez, la République démocratique du Congo, à travers l'organisation de l'unité africaine, est engagée à produire un certain nombre de résultats d'ici 2063. Donc, agenda 2063 de l'Union africaine. Et dans cet agenda, il y a beaucoup d'objectifs, il y a beaucoup de résultats qu'il faut atteindre dans l'industrialisation du continent. Et cela passe par des réformes nécessaires au niveau de l'enseignement technique et professionnel. Alors, l'État congolais s'est engagé à bénéficier de 200 millions de dollars pour faire avancer l'enseignement technique. Il y a un volet qui est au niveau secondaire. Alors, nous étions surpris de voir qu'il y a de ces écoles, pas seulement là où nous avons cité, dans beaucoup de coins, vous avez vu même dans le Grand Katanga, où on a déposé des écoles dans un lieu qui n'était pas destiné. Et nous, comme société civile, nous avons été interpellés par les communautés, nous avons mis à la place publique ces questionnements. Parce que, en toute logique, cela ne pouvait pas se comprendre. Comment l'État congolais, qui s'engage à rembourser aux années futures, à travers les générations qui viendront, des sommes colossales, ne puisse pas mettre en place avec ses partenaires un mécanisme qui suit la destination, l'utilisation correcte de matériel acquis. Et pendant que ces matériels restent des ans dehors sans être installés, ces matériels vont moisir. C'est-à-dire qu'on risquera de payer des dettes pour rien, en même temps les enfants ne bénéficient pas de leur droit d'accès à l'éducation de qualité.
De quel matériel il s'agit, Serge?
Il s'agit de matériel d'atelier, de matériel de laboratoire pour des écoles techniques. Et là, ce que nous avons dit, c'est une école agricole. Il n'y a pas que là-bas, il y a ici à Kinshasa, avec ITA Mumbele, l'Institut Technique Agricole de Mumbele, une école qui déjà a perdu suffisamment de l'espace, le matériel mis à sa disposition, autant de problèmes qui pour nous, après analyse, nous nous disons, mais lorsqu'il n'y a personne pour sanctionner, lorsqu'il n'y a personne pour suivre, lorsqu'il n'y a personne pour interpeller, eh bien, nous sommes en face d'une oligarchie, c'est-à-dire d'un club. Nous sommes en face d'une association, des gens qui voient des actes qui sont posés et il n'y a personne pour condamner l'un ou l'autre. C'est sur base de ces considérations, d'accord, nous avons interpellé la communauté pour dire cette façon de faire qui s'apparente à l'oligarchie doit être démantelée pour que des changements profonds soient opérés.
On va accueillir les auditeurs. Justin Koulou nous appelle de Fungurume et Jeff de Kabinda. Vous voulez participer à cette émission, composez le 081 890 63 94.
Ouvrez l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas manquer, les nouveaux disques, peintures et photos, les expositions à voir, les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Capi. La culture congolaise est bien vivante et nous la mettons en valeur. L'agenda culturel, c'est du lundi au vendredi à 7h50 et à 8h50 et samedi et dimanche à 6h50 et 7h50.
Comment démanteler les réseaux mafieux dans les secteurs de l'éducation? On en parle aujourd'hui avec Serge Bondedi, secrétaire général de l'ONG IMAE. Justin Koulou, vous êtes à Fungurume, dans le Lualaba. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, et je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi qui nous suivent en ce net moment.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce thème?
En tout cas, c'est alarmant. J'entre en matière par l'énoncé qui dit « quand le chat n'est pas là, les souris dansent ». Pour démanteler ces réseaux. Et ces réseaux sont nés par manque de suivi, par manque d'encadrement, par manque de formation. Donc les gens se retrouvent dans leur coin, là où bon, ils vont faire tout ce qui est bon les semble. L'éducation actuellement n'a pas de suivi. On est en train de faire le suivi par l'Internet. Quelqu'un dans son bureau, il envoie son adresse email à quelqu'un pour lui envoyer les images des écoles, les images des personnels. Mais arriver sur le terrain d'abord, c'est rien. Il y a les gestionnaires des églises qui ont...
Vous voulez parler des écoles fictives?
des écoles fictives. Donc il y a des confessions religieuses qui voulaient avoir des dîmes. Ils ont créé des écoles par-ci, par-là, et même ces écoles qui n'existaient pas. Et en voulant récupérer les dîmes, on envoie même les numéros de ces copains, tout ce que le ministre a dans son bureau, ce n'est pas une réalité. Laisse-moi vous dire la vraie réalité du terrain, monsieur Gère. Les écoles, et monsieur Jody, les écoles sont nées comme des champignons ici, dans des fins fonds. Là où il y a seulement l'emploi, si vous n'êtes pas un infirmier, vous pouvez être un enseignant. Et l'enseignant aussi, dans les fins fonds, les voies et les communications, les routes ne permettent pas aux dirigeants de descendre, voir dans quel état l'école se situe. Donc c'est une école qui est soit dans l'église, ou soit il n'y a pas de bâtiment. Ce sont des écoles comme ça, et, par les noms qui existent. Mais tant que le Congo est bien structuré pour débiter du ministre, les SECOP, les gestionnaires des églises et les écoles conventionnelles, les écoles de l'État, mais ils ne descendent pas pour vérifier réellement ce qui se passe, c'est quoi. C'est ce que nous passons. Peut-être à titre d'exemple, celui qui est descendu dans les territoires de Bukama. Quand vous quittez Bukama vers Kabondo, il y a le pont là de Lualaba des véhicules. Il y a une école qui est à gauche. Et ça, vous allez dire que c'est une institution. Et je n'ai jamais trouvé, pendant tout ce temps que je partais là, et je n'ai jamais trouvé les enfants dans de tels bâtiments. Des gens inclinés, et les gens restent sur les mastabas comme c'était à l'époque là de nos ancêtres. Or, il y a tout ce qu'on a mis en marche pour pousser l'éducation en avant, mais par manque de suivi de nos autorités, en commençant par le ministre qui est en train de gérer les écoles par Internet. Il est aussi impliqué dans cette chute-là de nos écoles.
Bien, merci. Merci Justin, qui dénonce des écoles, l'existence des écoles qui ne sont pas du tout contrôlées et un peu partout. Jeff nous appelle des Cabinda. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question, Jeff?
Oui, merci beaucoup pour la parole et merci à tous ceux qui suivent la radio Papier en ce moment. Bon, je voudrais vraiment vous donner comme mon témoignage concernant ce qui se passe ici à Kabinda, puisque il y avait depuis 2006 que beaucoup d'écoles ont été créées ici à Kabinda. Maintenant, ici en 2021, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'écoles qui fonctionnent, mais qui n'ont pas ni bâtiment, ni les enseignants, ni les élèves. Alors quand l'État s'était pris en charge pour suivre ces problèmes-là de près, le problème a été arrêté. Ça a été comme ça, un élu de Kabinda, un député national, a pesé de son poids et on a libéré le problème. Dans 48 heures, le prophète s'est retrouvé libéré. Or, pendant que le prophète était en détention, ils envoyaient les gens dans des villages voisins pour aller dire aux gens qui voudraient prendre comme fonction d'être préfet, enseignant et consort, pour qu'ils aillent se présenter à la justice, soit disant que c'est nous qui sommes les enseignants et les préfets de toutes ces écoles-là. C'est ainsi que je voudrais seulement dire que dans le secteur de l'enseignement, il y a beaucoup de désordres, puisque les ministres dirigent ce secteur-là seulement par Internet, puisqu'il y a beaucoup.
Donc il y a beaucoup de désordres, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas contrôlées et les mafieux aussi s'organisent pour détourner l'argent, détourner les matériels, etc. Et sans être inquiétés. Merci d'avoir appelé Charles Kisimba de Lumbashi. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour aussi à Serge Bouquedi.
Bien, nous parlons du démantèlement des réseaux mafieux dans les secteurs de l'éducation. Comment arriver à le faire? Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ces sujets?
Monsieur Jody, est-ce que l'État congolais n'est pas en train de moissonner sa faute de responsabilité d'avoir libéralisé le secteur? Monsieur l'invité, il ignore que l'éducation qui est aujourd'hui abandonnée par l'État, qui est aujourd'hui orpheline, c'est une clé du développement pour chaque État qui se veut sérieux. Monsieur Jody, quelle incapacité, quelle médiocrité! On devrait tout échouer, sauf l'éducation. Serge Bongedi, c'est c'est vraiment avec l'arme aux yeux. Voici mes quelques questions. Sera-t-il un jour possible de rentrer à la case de départ? Cela veut dire arriver un jour l'État récupère ses écoles. Est-ce qu'il y a-t-il un plafond ou bien un maximum d'écoles dans un coin donné? Serge Bongué dit, je termine. Qui peut offrir une école en RDC? Est-ce que ici à Lubumbashi, par exemple, en tout cas, on ne comprend jamais, on ne comprend rien. Chacun veut avoir une école. Les pasteurs, les députés, les ministres, chacun, vraiment, c'est la musique ici. Que dit la législation scolaire pour ouvrir une école? Voilà, bonne journée, je vous remercie.
Bien, merci. Maumbi, vous êtes à Massissi, au Nord Kivu. Bonjour. Maumbi, vous écoutez de la musique là-bas, on dirait. Bon, Serge Bondedi. Ah,
bonjour Jody, bonjour à notre invité.
Ah d'accord. Bonjour Maumbi, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au réseau mafieux dans les secteurs de l'éducation?
C'est pour moi la toute première fois de passer à l'antenne Radio Capi depuis le début de l'année. Permettez de vous souhaiter tout d'abord mes vœux le meilleur pour l'année.
Merci.
De ce qui est de la thématique du jour, j'ai une préoccupation et des questions à poser à notre invité du jour.
Lesquelles?
Et la première est la suivante.
Oh là là, il n'a même pas posé la première question et voilà, il est parti. Serge Bondedi, à vous la parole.
Oui, merci beaucoup. Je crois que déjà, les premières interventions des auditeurs viennent appuyer davantage ce que nous disons, l'intérêt que nous portons à l'éducation. L'auditeur que je n'ai pas noté le nom de Lolaba l'a si bien dit, le manque d'encadrement, le manque de suivi favorise l'existence de réseaux mafieux. C'est-à-dire que lorsque l'État est faible, nous tombons dans le corporatisme, dans une sorte de conglomérat, et ce qui fait que sur le terrain, nous vivons le mimétisme. C'est-à-dire que nous avons soulevé des questionnements profonds, c'est-à-dire qu'au cours d'une échelle de 10 années, la République a mobilisé près d'$1 milliard auprès de PTF pour financer les secteurs de l'éducation. Mais pourquoi la plupart des projets ciblent que le même province, par exemple? Pourquoi le même projet ont presque le même modus operandi?
Serge, on peut dire que ces oligarques profitent souvent derrière les projets pour se faire de l'argent.
Oui, ça, c'est une des options. Vous savez, c'est une des options parce que avec le projet, vous savez, l'argent, déjà le gouvernement congolais finance difficilement les réformes. Ça, il faut le dire. Le gouvernement congolais est suffisamment faible dans la mobilisation des réformes. Ce sont des projets dont le partenaire étranger qui apporte des moyens. Et là où nous interrogeons. Nous avons lancé des interrogations pour que chacun, en ce qui les concerne, les responsables, tire des leçons de manière à faire mieux le travail. C'est-à-dire que lorsqu'on constate que le projet n'offre pas des résultats suivants en fonction des attentes des communautés et que ça ne change pas, c'est que nous tombons dans le corporatisme. Et ce corporatisme-là, n'est-ce pas là l'oligarchie? N'est-ce pas là c'est entretenu pour des intérêts occultes? Si ce n'est pas le cas, c'est le travail de terrain qui va nous attester le contraire. C'est les performances qui seront enregistrées qui vont nous montrer qu'effectivement, peut-être ce que nous avions dit, ce n'était pas le cas. Mais les gens se sont amendés. Mais au stade actuel, dès lors que les résultats ne sont pas assez efficaces, alors que le Congo paiera de dette, nous sommes donc dans le droit de nous interroger et de dire qu'effectivement, il y a des choses qui ne vont pas tel qu'on l'aurait souhaité.
Alors, à part ce projet dont vous avez fait allusion des bibliothèques scolaires, quels sont les autres projets où on se rend compte qu'il y a eu vraiment des tournements, implication des réseaux mafieux?
Bon, en fait, comme nous l'avions dit dans la mise au point que nous avons fait hier, Imaye s'interroge. Imaye, qui n'est pas un tribunal, Imaye n'a pas dit que les gens ont détourné. Mais Imaye constate que les résultats ne sont pas bons. Imaye constate que, par exemple, le projet PECPESU, le matériel commandé, pourquoi sont laissés dehors? Le matériel commandé, pourquoi se retrouverait dans une autre école? Imaye lance des interrogations aux responsables concernés de tirer les leçons. Est-ce qu'il s'agit de détournement? Est-ce qu'il s'agit de maladresse? Est-ce qu'il s'agit de manque de performance ou de manque de suivi? Est-ce qu'il s'agit des problèmes de moyens peut-être pour amener les matériels, la manutention? Je crois que nous avons dit, là, ce que nous avons vu, ce n'est pas correct. Pourquoi ce n'est pas correct? Et si rien n'est fait, là, nous sommes dans le corporatisme, là, nous sommes dans l'oligarchie, et c'est aux responsables concernés de tirer les leçons pour faire nous prouver le contraire.
Et on a appris aussi souvent qu'il y a un silence du côté du ministère de l'EPST. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a, peut y avoir des complicités quelque part?
Bon, nous avons fait notre travail de la société civile. La loi nous appelle comme étant de partenaires éducatifs pour accompagner le gouvernement. Et le gouvernement a mis en place une stratégie endossée par tous les partenaires, la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation, dans laquelle l'aspect redevabilité et la participation de la société civile sont clairement mentionnés en lettres d'or. Nous l'avions fait, mais le pouvoir organisateur, c'est l'État. Et je crois que suffisamment, nous avons fait notre travail au gouvernement d'en tirer les conséquences possibles. S'il faut corriger, s'il faut... Mais nous, notre souhait est qu'il y ait des remodélages profonds, des remodélages. Il faut qu'il y ait des options. Parce que il y a certains éléments qui indiquent la gestion de projets, parfois, échapperait au gouvernement. Ce sont des éléments que nous avons recueillis au cours de ces opérations dans le cadre de la campagne. Et si tel est le cas, et que l'État n'a pas tout le pouvoir dans le projet mis en place par le bailleur des fonds, parce que c'est eux qui ont, semble-t-il, toute la mainmise, nous estimons qu'il faut, à un certain moment, que le gouvernement, à travers des assises bien élaborées, lève des options de souveraineté, des options stratégiques pour que la République trouve son compte. Parce que on ne peut pas, à un certain moment, comprendre le flou qu'il y a dans le ciblage des provinces. Il faut que toutes les 26 provinces bénéficient aussi des projets. Alors, si c'est là...
Quels sont les projets, les provinces qui sont souvent ciblées par ces projets-là?
Vous avez le Nord et le Sud-Kivu qui sont suffisamment ciblés. Vous avez le Haut-Katanga. Vous avez le Lualaba, vous avez récemment, où on sent quand même beaucoup d'évolution dans le ciblage de la partie Kasaï. Mais si vous prenez Sankuru, par exemple, il n'y a pas assez de projets. Vous avez le Grand Bandundu, où vous avez plus le Maïndombe peut-être, et un tout petit peu le Kwango. Mais vous avez d'autres coins où il n'y a pas suffisamment de projets. Bref, vous avez vraiment des provinces où le Maniema, par exemple, pas suffisamment assez. Donc, vous verrez qu'il y a 11, 12 provinces qui sont reprises dans presque tous les projets, alors que les autres n'en bénéficient pas. Alors que le système éducatif est assis sur base de piliers qui s'appelle l'équité. Donc, il faut qu'il y ait le même chance, les mêmes opportunités pour toutes les provinces, et lorsque nous les rappelons, nous faisons notre travail. Lorsqu'on constate que cela continue, c'est pour cela que nous disons, oh, nous sommes en face du corporatisme, nous sommes en face de l'oligarchie, où peut-être ces gouverneurs se réunissaient pour influencer sur le choix de leur province. Donc nous avons lancé
des problématiques profondes et au gouvernement d'en tirer les conséquences pour qu'il y ait amélioration, même aux partenaires techniques et financiers, de tirer les conséquences pour qu'il y ait des améliorations nécessaires, et cela va satisfaire l'ensemble de la communauté éducative.
Bien, on va accueillir Kachai de Kanyuka. Nous parlons du démantèlement de l'existence des réseaux mafieux dans les secteurs de l'éducation. En République démocratique du Congo, comment arriver à les démanteler? On va en parler, en savoir tout à l'heure avec notre invité. Kachai, vous êtes à Kanyuka, bonjour.
Bonjour monsieur, je dis Daniel Kachama, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Bon, vous avez suivi qu'il y a des mafieux, des gens qui s'enrichissent dans les secteurs de l'éducation au détriment des enfants congolais. Et qu'est-ce que vous avez, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour démanteler ces réseaux?
Oui monsieur, je dis Daniel Kachama, vous savez que nous sommes victimes de tout ce que certaines personnes se permettent de faire dans tous les secteurs d'ailleurs de la vie. Nous sommes des victimes consentantes. Parfois, quand nous dénonçons ces mal-là, nous devenons ennemis de ceux qui pillent, qui détournent, qui volent, monsieur Jody. Ils nous voient comme si que nous, là, nous n'avons pas droit au chapitre. C'est ce qu'ils disent si souvent. Ils s'organisent dans ces réseaux-là mafieux pour détourner les fonds. Dans le secteur de l'éducation, ça s'est devenu une habitude. D'abord au ministère, jusque dans les services de paye des agents, des enseignants. Parce que vous allez trouver, par exemple, au ministère, pendant que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, se soucie de l'éducation en permanence, gratuite, des enfants congolais, il y a toujours certains Congolais aussi qui s'organisent pour décourager ces efforts-là afin qu'ils puissent détourner les fonds. Au ministère, on a détourné les fonds de la RTP, c'est devenu une habitude. Quand on arrête les responsables, demain, on les libère. Au service de paye en province, c'est devenu une habitude. Quand quelqu'un vole, il va féticher pour que le service judiciaire ne puisse pas diligenter des enquêtes contre lui. Quand quelqu'un détourne, il a des parapluies, même dans la magistrature. Quand vous détournez, vous allez informer votre frère qui est magistrat, votre frère qui est politicien, qui pèse, il va taire les dossiers. Alors, la meilleure façon de faire, monsieur Jody, consisterait à créer des guichets uniques de paiement des fonds. Et même des créations de comptes parallèles dans les différentes banques. Vous allez comprendre que nous avons un compte général du Trésor. La Banque centrale, c'est le caissier de l'État. Mais vous allez trouver que les responsables congolais créent des comptes dans les petites banques commerciales qui existent sur place pour qu'ils puissent approvisionner ce compte-là au profit de leurs propres intérêts. Et pourvu que quand il y a des enquêtes, on va chercher à la banque, il n'y en a pas, mais chez eux, là, ils ont des fonds. Parfois, ils ont fait des tombes. Hein, quelqu'un qui fait une tombe où il met seulement, il enterre l'argent.
Ah bon?
Des fois, quand il a besoin, monsieur, je dis, ici en province, nous vivons des choses.
Il y a des oligarques qui enterrent l'argent dans des tombes.
Il y a des gens, surtout les politiciens là, qui enterrent de l'argent dans les tombes. Quand vous allez au cimetière, n'en parlons pas. Toutes les tombes au cimetière ne sont pas des tombes qui ont enfermé les personnes vivantes. Quelqu'un qui vous parle comme Kachai. Mais il y a aussi de l'argent qui est enterré là-bas. Embelli, monsieur Jody. Il y a même la croix. Il place la croix devant son argent.
Ah bon? Hein? Et à quel moment ils viennent pour faire des retraits?
Maintenant, je ne sais pas. Parce qu'un jour, on avait arrêté un groupe de malfaiteurs au cimetière la nuit, entre minuit et 2 heures. Vous pouvez vous imaginer. Ils font quoi là-bas? Donc, ce sont des gens qui n'ont pas peur ni des morts et qui n'ont pas aussi respect pour les morts quand vous allez au cimetière la nuit. C'est-à-dire que vous jetez des discrédits sur les morts qui ne sont pas morts.
D'accord. Oui, merci voilà. Beaucoup. On va donner la parole à Malonga de Kinshasa, qui va aussi s'exprimer là-dessus. Malonga, bonjour.
Oui, bonjour, jeudi, MRV, bonne année 2022.
Bonne année, Malonga, vous êtes à Kinshasa. Alors, ces réseaux mafieux.
Je suis à Kinshasa, je suis en promenade pour manger le janvier ici de 2022, avec vous ensemble.
D'accord, on vous écoute.
Jeudi. En tout cas, pour notre thème d'aujourd'hui, il y a à manger et à boire. Vous voyez ces réseaux-là, mafias, commence à la tête de ce secteur d'enseignement-là. Et c'est ce réseau qui s'oppose à la gratuité. Vous voyez, aujourd'hui, nous les parents, nous souffrons beaucoup et nous avions beaucoup souffert. Lorsque l'esprit de la gratuité est entré, en tout cas, nous avions eu de la tranquillité. Mais ceux qui alimentent ces réseaux-là, ceux qui savent ces secrets, comment ils profitent beaucoup à ces réseaux-là, vous voyez qu'on sait ce qu'ils ont, ils se sont fait vraiment le grévistes extrême.
Alors que d'après vous, comment démanteler ces réseaux, Mathieu? D'après vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour démanteler ces réseaux mafieux dans les secteurs de l'éducation?
Pour en finir, c'est très difficile d'abord. Raison pour laquelle j'ai commencé à dire que ça commence à la tête. Alors, il faut que l'État s'infiltre à l'enseignement pour bien cibler qui commence ça et qui font ça. Pour arrêter ceux qui sont vraiment les responsables. Mais si on veut brutaliser ça, même les innocents peuvent être victimes.
D'accord.
Il faut bien cibler le réseau, puisque le réseau a commencé à la tête, s'il vous plaît, je me répète, à la tête. Alors, si on commence en bas, on risque de pénaliser encore les enfants. Et je dois que l'impuissance aussi de l'État fait partie de la croissance de ces réseaux. L'État aussi observe le mal et ne fait rien, n'arrive pas à réagir.
D'accord,
et
merci. Merci Malunga.
Oui, c'est qui s'est tenté de faire oui. C'est mal, mais il est là, il observe le mal et d'accord. Le mal, c'est quoi? Aujourd'hui, vous voyez, nous commençons à le déclarer publiquement comme ça.
Merci beaucoup. Donc, d'après lui, il faut pas y aller avec brutalité, trouver des moyens pour infiltrer ces réseaux. Et Kacha, il nous dit que ces oligarques savent se protéger. Ils ont des parapluies un peu partout pour être à l'abri des poursuites, etc. Pierron Pagnard, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Jody, Merve, et bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la radio Capi.
Bonne année. Dites-nous, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour démanteler les réseaux mafieux dans les secteurs de l'éducation?
Je peux vous dire que ce sujet est trop pertinent et je vous dis que c'est un sujet qui nous a cassé les yeux des têtes. Et je voulais d'abord, avant de vous dire quoi, je voulais d'abord demander à notre invité, parce que nous avons cette question peut m'échapper à la fin. Alors je voulais vous demander, monsieur le coordonnateur, pourquoi vous n'avez pas préférer que cette structure école des hommes au bon côté soit comme le U-Report pour vous aider aussi à traquer d'autres voleurs. Moi, nous le disons, des voleurs qui sont dans les périphéries, ce n'est pas seulement dans le centre-ville et le chef-lieu des territoires, mais la plupart des réseaux mafieux se font dans des villages où il n'y a même pas les routes pour y entrer. Ces gens-là font des gaffes. Et lorsque les inspecteurs vont là-bas, même avec le NACEP, Xeta, ils font des coopérations, ils s'enrichissent et c'est leur moment de fête. Alors, pourquoi vous préférez seulement faire des campagnes à Kinshasa où vous êtes pointé? Peut-être on vous cherche la nuit pour vous tuer au moment où le mafia se fond dans les villages. Je prends l'exemple de Lubumbashi. J'ai constaté que ce que je vous dis est palpable et visible. J'ai constaté que dès la rentrée scolaire, les élèves payent le papier. On oblige à chaque élève le ram de papier. Au moment où on va se demander comment l'élève va terminer les rames de papier durant toute l'année, on ne parvient pas à comprendre et on ne prend pas les rames, on paye l'argent. Ça, c'est l'observation que moi j'ai fait, moi personnellement. La deuxième observation, c'est le frais de l'État qui se paye même dans les écoles de l'État, alors que l'enseignement est gratuit. Moi, je voulais vous demander, monsieur le coordonnateur, pardon, je voulais vous demander que, est-ce que
Soyez bref, Piro. Oui, l'enseignement est gratuit. Maintenant, il y a des réseaux de mafieux là dans les secteurs. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour démanteler ces réseaux rapidement?
Pour démanteler ces réseaux, moi je propose seulement à cette structure École des Hommes en bon côté, parce qu'il a commencé à se plaindre comment il est menacé. Mmh. Moi je voulais lui demander de faire une structure comme nous voyons les reporters. Ce genre de choses, nous aurons à attraper beaucoup de voleurs et les encourager. Parce que
You Reporter est juste une plateforme de l'UNICEF pour... faire des sondages à l'intention des jeunes sur les questions qui les préoccupent.
Mais leur façon de faire des recherches, ça peut nous aider aussi à faire quelque chose dans la traque des voleurs, parce que...
Peut-être vous voulez demander à Imaye d'avoir un numéro vert ou quelque chose comme ça où les gens peuvent appeler pour dénoncer.
C'est ce que moi je préfère. Parce que si à Lubumbashi, on commence même à dire que Bokanga Jamal, Bokanga Bamibi, y a ce copepe, mais Botique Labisso, Mundelo, y a Paris Foot. C'est-à-dire, les gens commencent à dire cela. Pourquoi? Parce que nous avons tant de voleurs. Je dis et je vous remercie.
Merci, Serge Bondedi. Vous avez suivi les différentes préoccupations des auditeurs. Il y a Kachai qui dit que les oligarques, ils se protègent. Ils ont même des parapluies au niveau de la justice. Donc, il sait pas comment vous allez les atteindre. Et puis, et d'après lui, il propose que vous puissiez, qu'on puisse créer un guichet unique où on paye pour tous les frais liés à l'enseignement. Certains enterrent même l'argent dans des tombes, etc. Malonga vous propose d'infiltrer ces réseaux pour arriver à les démanteler, parce que si vous les attaquez de front, ça ne marchera pas.
Et infiltrer les réseaux, et quand on va attraper les réseaux, vous serez aussi arrêté dans la participation des associations de malfaiteurs. Non, vous savez... Humain n'est pas un tribunal, je l'ai dit toujours lorsque je me retrouve dans des forats avec des jeunes et d'autres influenceurs. Humain n'est pas un tribunal, Humain n'est pas le Parlement, Humain n'est pas l'IGF. Humain est une organisation de la société civile qui a sa méthodologie de travail et qui est limitée, vraiment limitée dans le temps et dans l'espace. Si l'UGF qui dispose de tous les moyens d'État est buté à certaines difficultés, à combien plus forte raison pour une organisation citoyenne, privée comme la nôtre. Le souhait, c'est de bénéficier suffisamment des renforcements des capacités de beaucoup de partenaires pour que nous puissions étendre davantage nos activités. Sur les 26 provinces, nous avons des secrétaires provinciaux dans plus ou moins 13, mais l'efficacité dépend aussi de moyens à leur disposition. Voilà un peu ce que je peux dire, les souhaits. Nous comprenons ces souhaits, nous avons ces soucis de faire mieux, mais nous sommes limités. Si on avait suffisamment de moyens, c'est ici l'occasion de lancer un appel. Aux gens qui soutiennent peut-être des musiciens, des théâtres, qui devraient aussi être bons pour éduquer les apprenants, mais depuis un temps, ça contribue à abrutir la jeunesse. Si ces gens-là pouvaient aussi soutenir les organisations, pas seulement humaniers, de la société civile, je crois que la société avancera.
Serge, dites-nous, quels sont les impacts négatifs de l'existence de ces réseaux dans les secteurs de l'éducation?
L'impact négatif et grand. Vous savez, la vision de l'éducation est que c'est une force d'égalisation dans la société. Et le comité de droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a fait même une observation générale qui a dit que le droit à l'éducation est un catalyseur et a des effets multiplicateurs. Donc, c'est un droit qui sert principalement comme outil qui permet aux adultes et aux enfants économiquement, socialement marginalisés de sortir de la pauvreté et de se procurer des moyens de participer pleinement à la vie de leur communauté. Lorsque dans une école, dans un coin du territoire, dans le Grand Équateur où il y a aussi une école qui a bénéficié des matériels
Mais déjà aussi, ces matériels sont entreposés dans des containers. Vous avez des groupes électrogènes, vous avez beaucoup de choses, et que les enfants n'ont pas accès à ces matériels. C'est-à-dire qu'on ne permettra pas à ces enfants de jouer pleinement les rôles dans la société. Ils pouvaient devenir ajusteurs, ils pouvaient devenir charpentiers, ils pouvaient devenir électromécaniciens, ainsi de suite. Donc, l'organisation mafieuse use peut-être de l'éducation pour se servir, empêche maintenant au plus grand nombre d'accéder au service, à l'offre de l'éducation, avec, et cela produit des effets, renforce la pauvreté, renforce les inégalités, ne permet pas le développement intégral et durable dans nos sociétés.
Et Serge Bondet, ici, il y a des complicités au niveau des inspecteurs et autres. Vous ne trouvez pas que l'équation devient encore très difficile à résoudre?
Oui, c'est en fait une situation généralisée du pays. Je crois qu'un de l'auditeur l'a dit. Le pays vraiment souffre de plusieurs maux et dans tous les secteurs. Il ne faut pas se voiler la face. Alors si nous mettons un accent sur le secteur éducatif, c'est sur base des observations que je viens de dire ici, la vision forte et inclusive de l'éducation en tant que force d'égalisation dans la société. Dans d'autres secteurs, je crois qu'il y a aussi des acteurs qui peuvent ou qui en font autant. Donc, l'équation est difficile. L'État n'est pas suffisamment représentatif et n'est pas suffisamment fort dans tous les coins. Vous avez des problèmes presque partout et de plusieurs formes. Mais je crois que voilà pourquoi il était important pour nous de faire cette mise au point selon laquelle ce travail ne vise pas un individu à titre singulier. C'est un travail qui constate un certain nombre de faits qui s'apparentent au corporatisme, à l'oligarchie, et nous appelons de tout notre vœu que cela s'arrête pour que le plus grand nombre en bénéficie.
Comment démanteler efficacement ces réseaux?
Alors, vous savez, je vous ai cité l'exemple de Kinshasa pour un cas précis. Il y a quelqu'un qui a parlé de rames de papier. Et je l'appuie. Nous l'avions dit à maintes reprises et nous continuons à le dire. Je crois que bientôt nous allons lancer la 5e édition de la campagne. Je l'ai dit, je mets quiconque à défi, tout parent. Là où on demande les rames de papier, là où on demande des savons Munganga, là où on demande de je ne sais pas quoi encore... de papier hygiénique, allez dans ces écoles, vérifiez qu'on montre aux gens là où on entrepose ces histoires, vous ne trouverez pas. Vous avez des écoles qui ont 1000, 2000 effectifs, donc si les gens donnaient, chaque enfant donnait un rame de papier avec un taux de 80%, vous avez 1800 rames de papier. Mais je mets quiconque à défi de montrer dans une école où on garde ces rames de papier. Il n'y en a pas. Ceci démontre que dès le dépôt de ces rames de papier, ça prend d'autres directions, ça prend d'autres destinations. Oui. Les gens travaillent avec des papeteries en réseau. Les gens travaillent avec des boutiques. Vous avez un promoteur, vous avez un chef d'établissement qui est chef d'établissement, mais qui a aussi une alimentation. Au lieu d'acheter à travers ses clients, mais il a des clients à l'école. Et ce n'est pas des choses nouvelles, nous l'avons suffisamment dit à travers la campagne. Alors comment arrêter cela? Je crois qu'à Kinshasa, il y a un début. Le lundi passé, nous avons été conviés à la mise sur pied d'une commission de suivi. Ça, c'est un début. Et nous allons faire notre travail pour inviter aussi d'autres gouverneurs des provinces à emboîter le pas. Et ces choses gagnent du terrain lorsqu'il y a l'absence d'encadrement, lorsqu'il y a l'absence de suivi. Et quand il y a un suivi, c'est un début.
D'accord. Donc, les ONG doivent continuer à dénoncer. Et puis, quelqu'un a proposé, s'il y a un numéro vert, les gens peuvent continuer à appeler pour dénoncer des cas d'oligarchie dans leur milieu.
Oui, la mise sur pied d'un numéro vert est payant. Au stade actuel, nous n'avons pas encore de moyens pour le faire. Si demain, on aura un partenaire qui pourra nous accompagner, ça nous aidera. C'est un numéro qu'on prend en charge pour payer. C'est vraiment un bon mécanisme.
Et aussi, il faut que le gouvernement protège les défenseurs des droits humains, protège les activistes que nous sommes. Lorsque le gouvernement ne nous protège pas, ça sera pas intéressant qu'on se retrouve dans des cas de Emmanuel Snowden qui s'est retrouvé enfermé dans l'ambassade depuis plusieurs années parce que il a dénoncé. C'est important que le gouvernement et le partenaire participent à la protection des activistes que nous sommes. Parce que lorsque les menaces sont répétitives, ce n'est pas une première, vous savez qu'on a déjà fait la prison, lorsque ces menaces sont répétitives, et ces menaces ont pour viser de nous museler. Et lorsque nous fermons la bouche, c'est la communauté qui en perd.
Bien, Serge Bondé, directeur général de l'ONG IMAE, Young Men Action for Education, l'association des jeunes pour l'action des jeunes pour l'éducation et coordonnateur de la campagne École Isamou Mouvement. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup.